bonjour. C'est avec un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio.
Comme nous le savons, les vies de l'homme et du cheval ont été intrinsèquement liées. Il n'est donc pas étonnant que cet animal extrêmement photogénique se soit illustré sur le grand écran. À l'instar des hommes, il peut être figurant, second rôle ou star. Si sa présence est parfois anecdotique, la symbolique qui lui est liée, elle, ne l'est pas, comme nous allons essayer de vous le démontrer dans l'émission d'aujourd'hui.
Que nous avons intitulé « Le cheval dans le cinéma ». Alors, je crois qu'il y a beaucoup de films qui sont consacrés aux chevaux.
Énormément, Michel. Et comme on ne peut pas tous les citer, il faut bien faire des choix. Ceux dont nous allons parler me paraissent particulièrement intéressants. Et en plus, ils sont chers à mon cœur.
D'accord. Alors, ce cheval, il n'a pas, dans tous ses films, il n'a pas un rôle unique. Il y a des rôles qui sont quand même assez divers.
Eh bien, comme les acteurs humains, le cheval au cinéma a des rôles variés. Il peut être figurant, second rôle ou star. Alors parmi si l'on parle du cheval figurant, parmi les films dans lesquels le cheval s'est illustré, il y a deux genres qui dominent, le western aux États-Unis et le film de cap et d'épée en Europe. Et par extension, le film historique, puisque qui dit film historique, dit scène de bataille souvent, charge, etc.
C'est amusant de voir ces deux volets, l'américain et
l'européen.
Oui, tout à fait.
Et donc, nous avons évoqué au cours d'une émission précédente le cheval dans le western. Donc, nous n'allons pas développer plus que ça. Rappelons juste que la conquête du continent américain n'aurait pas pu se faire sans le cheval, comme l'ont évoqué des films comme La conquête de l'Ouest de John Ford, Henry Hathaway, George Marshall, avec des vedettes comme John Wayne, James Stewart, Henry Fonda, qui étaient des grandes stars de l'époque. Le film a été fait en 1962. Ou encore, 30 ans plus tard, en 1992, Horizon lointain de Ron Howard, avec Tom Cruise et Nicole Kidman, qui se lançaient à la conquête des territoires de l'Ouest.
Alors, on a vu donc pas tous les films, mais des films américains que tu viens de citer. Alors justement, maintenant, on traverse l'Atlantique et on va en Europe.
Oui, en Europe en particulier, où les films historiques s'accompagnent de leur lot de figurants équins. Donc, on peut penser par exemple à Fanfan la Tulipe, dont nous avons deux versions, une en 1951 et une en 2003. On peut penser également à Guerre et Paix.
Juste une petite parenthèse qui est tirée de l'écrivain russe Tolstoï.
Guerre et Paix qui a eu connu une version américaine en 1956 et une version russe en 1967. Comme le dit le titre, Guerre et Paix, nous parlons des guerres napoléoniennes et que ce soit le film d'Henry King et surtout le film de Serge Bondarchuk, la charge de l'armée russe face à l'armée française était particulièrement impressionnante. Puis plus récemment, nous avons également La princesse de Montpensier, réalisée en 2010 par Bertrand Tavernier, où les chevaux du cascadeur Mario Luracci jouèrent brillamment leur rôle.
Alors il faut rappeler que Mario Luracci est un très très grand dresseur de chevaux qui monte des spectacles que j'oserais dire un spectacle total, c'est-à-dire où une histoire est racontée, et il a beaucoup, comment dirais-je, influencé les cavaliers plus jeunes. Enfin, on peut dire qu'il a vraiment été une locomotive sur ces fameux spectacles.
Oui, et puis il a surtout révolutionné la cascade au cinéma, parce qu'avant Mario Luracci, c'était assez violent. Avec Mario Luracci, le cheval apprend à se coucher, se lever, à faire tout ce qu'on peut lui demander de faire sans qu'il en souffre dans son corps.
Tout à fait. Ça aussi, c'est un grand tournant. Avant, on se souvient de certaines, la charge de la brigade légère ou je ne sais pas trop quoi, où les chevaux étaient entravés par des câbles pour se casser la figure, et il y avait énormément de chevaux qu'il fallait abattre.
Absolument. Dans les années 60, nous avons des films comme Le Bossu, Le Capitaine ou encore Le Capitaine Fracasse avec Jean Marais, qui ont mis en avant la relation entre le cavalier et le cheval, qui ici est un faire-valoir de l'homme, n'en est pas moins son complice, auquel il n'obéit d'ailleurs pas toujours au doigt et à l'œil.
Alors Le Capitaine Fracasse, évidemment, est tiré d'un roman de Théophile Gautier, un gros pavé qui raconte une histoire d'une troupe de comédiens errants.
Alors on peut voir qu'avec le cheval devient un petit peu le complice du héros, il sort de son simple rôle de figurant pour devenir un véritable second rôle. Alors je pense particulièrement à un film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle La Tulipe Noire, interprété par Alain Delon en 1964, où il joue un justicier masqué qui en 1789 détrousse les fermiers généraux. Et son cheval s'appelle Voltaire, un nom qui est en soi une provocation à cette époque historique.
Effectivement, alors c'est important parce que c'est un cheval qui n'obéit qu'à son maître. Enfin, c'est
il
pas
n'obéit
un cheval,
qu'à son maître, voilà. Absolument. D'ailleurs, Alain Delon, enfin le personnage le dit, c'est un pur sang, il n'obéit qu'à moi.
Et alors, c'est Francis Blanche a une réplique que je trouve extraordinaire.
Voilà, c'est ce film, oui, qui nous vaut cette réplique de Francis Blanche, qui fait rire un petit peu tout le monde, hein, mais que je trouve incroyable. Donc, face à un cheval qui se gabre et se débarrasse de son cavalier, il s'écrie « C'est un cheval patriote, il en a assez d'avoir la noblesse sur le dos, vive les chevaux !»
Eh ben, dis donc, c'est envoyé.
Et puis, comme couple célèbre également, Michel, on peut penser bien évidemment à Zorro, Don Diego de la Vega, alias Zorro, et son célèbre cheval noir Tornado. Il a existé à la télévision, mais là je vais vous parler des adaptations cinématographiques de 1998 et 2005 avec Antonio Banderas, où l'on découvre un Tornado pas si obéissant que ça, brisant avec humour les codes du cheval venant au secours du héros, comme dans la scène où Zorro le siffle, s'élance du toit en espérant tomber sur son dos, et c'est le moment que choisit Tornado pour s'écarter et Zorro tombant lourdement sur le sol.
Donc c'était un cheval, ce Tornado, finalement assez
malin. Et de l'humour.
Ouais,
beaucoup d'humour.
Beaucoup d'humour, beaucoup d'humour, voilà. C'est amusant parce que ça nous change quand même l'histoire de Zorro, où tout lui réussit à Zorro.
Absolument.
N'importe quel. Il est empêtré dans les pires choses, mais il s'en sort toujours, sauf son cheval. Alors je crois aussi que les chevaux peuplent un univers cinématographique fantastique.
Absolument, c'est un univers qui est propice aux chevaux. On se souviendra des chevaux rouges et bleus qui peuplent l'univers poétique de Jacques Demy dans Peau d'âne en 1970, des licornes dans Legend en 1985 de Ridley Scott qui font régner la paix sur le monde, et que dire des chevaux qui peuplent la trilogie du Seigneur des Anneaux, tournée en 2001, 2002 et 2003.
Alors, pour en revenir à Peau d'âne très rapidement, il y avait Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, Jacques Perrin, Jean Marais et Michel Prel, et il a été tourné une grande partie du film a été tournée en 70 au château de Chambord.
Scène finale, oui, château du prince, Chambord et le château du prince.
Tout à fait.
Et puisque l'on parle de prince, Michel, nous allons parler 1 minute 57 d'une duchesse qui est l'héroïne d'un film qui porte le même nom, The Duchess. Et nous allons donc écouter la bande originale, un extrait de la bande originale de The Duchess, musique de Rachel Portman. Alors revenons au Seigneur des Anneaux, film majestueux avec un tournage qui a compté jusqu'à 250 chevaux pour une seule scène.
C'est une trilogie, je crois.
C'est une trilogie et qui met en scène des cavaliers qui se traverse cet univers de Tolkien et qui également s'affronte dans des batailles homériques, on pourrait dire.
Oui, on pourrait presque appeler cette série trois films oniriques, c'est-à-dire on est dans la réalité mais dans le rêve.
Oui. D'accord. Enfin, dans la réalité, non, c'est l'univers de Tolkien.
Oui,
c'est
bien sûr, mais enfin, bon, il y a ce côté tout à fait onirique. Oui.
Tout à fait. Alors, ces chevaux, on les découvre sous différentes formes. Ils peuvent être chevaux d'écume, noyant les poursuivants de Frodo et Arwen, une elfe capable de parler aux chevaux et de se faire comprendre d'eux. C'est encore Brego, le cheval d'Aragorn, qui le sauve et la bataille du gouffre de Helm. Très belle scène où le cheval va réveiller l'homme évanoui et va le pousser à repartir. Et puis à tout seigneur tout honneur, Gripoil ou Shadowfax, c'est son nom en anglais, le seigneur des chevaux de la terre du milieu, trop sauvage pour être dressé par le peuple cavalier du Rohan. Ce cheval est capable de comprendre la langue des hommes, il galope plus vite que le vent et sera offert bien malgré lui par le roi Théoden au magicien Gandalf, le seul homme qui pourra jamais le monter. Et ce dernier présente Shadowfax dans les termes suivants, le seigneur de tous les chevaux, qui fut mon ami lors de maints dangers. Donc on voit que le rapport entre le magicien Gandalf et Shadowfax dépasse le simple rapport du cavalier au cheval.
C'est amusant comme on voit souvent dans ces films, c'est un peu typé le cheval immontable et qui tombe sur une personne. Et alors là, à ce moment-là, il y a une espèce de grande alliance et d'affection qui naît. On retrouve un peu toujours ce même ressort dans une certaine
mesure.
Voilà, et
puis en plus ici, Gandalf est un mage. Donc seul un mage peut choisir le cheval que personne ne peut monter. Dans les deux derniers films de la trilogie, Shadowfax va sauver bien des hommes grâce à sa vitesse et à sa force, ce que l'on constatera notamment au cours du siège du royaume de Gondor.
Alors si on abordait maintenant un peu les chevaux stars, parce qu'il y a des chevaux stars.
Il y a des chevaux stars. Et puis nous allons commencer, après avoir évoqué donc le fantastique pur et dur, par un film qui se situe à la frontière du fantastique, Le cheval qui venait de la mer. Sorti en 1994, ce film de l'anglais Mac Newell nous plonge dans les légendes celtiques. Un cheval sort de la mer pour aider deux jeunes enfants gitans qui vivent avec leur père, un veuf inconsolable, dans la banlieue de Dublin. Nourris de légendes celtiques et de westerns, les deux enfants vont traverser l'Irlande à cheval, poursuivis par la police lancée à leur trousse par un homme d'affaires qui voit en ce cheval blanc d'exception un futur grand champion d'obstacles, et par leur père qui va renouer avec sa vie d'antan, Tir na n'Og. C'est le nom du cheval, mais un nom qui renvoie à la légende gaélique de Oisin, ce jeune homme tombé amoureux d'une fée et qui, souhaitant revoir le monde des hommes, est confié à un cheval dont il ne pourra pas descendre au risque de perdre son amour à jamais. Et la sangle s'est rompue, Oisin est tombé et en un instant, il s'est âgé de 300 ans, puisque ça faisait 300 ans qu'il vivait avec la fée, et a disparu de la surface du globe. Mais ici, donc, Tir na n'Og, c'est un cheval réel que les enfants amènent dans leur appartement, ce qui nous vaut des scènes très drôles avec les voisins, car un cheval dans un ascenseur ou montant les escaliers ou ruant et défonçant un mur vaut son lot vraiment de cacahuètes, comme on dirait.
C'est cela, on le voit même au cinéma, ce cheval.
Il l'amène même au cinéma, on le voit même manger du pop-corn à leur côté. C'est un cheval qui est également très protecteur, qui défend les enfants face aux hommes qui les agressent. Et enfin, un cheval magique qui va les amener de l'autre côté de l'Irlande et les mettre face à leur destin. Donc il s'accomplit ici un rite de passage du pays des légendes à celui de l'Irlande contemporaine, qui permettra à un enfant meurtri de guérir ses blessures intérieures et une famille de faire son deuil. C'est un film aux images magnifiques, qui n'est pas un conte, car il dépeint avec une réalité quasi documentaire le monde des gitans irlandais, que l'on appelle les « travellers ». Ce sont les laissés pour compte de la société irlandaise. Quant à notre cheval, Tir na n'Og, il a été interprété par deux chevaux appartenant à Mario Luracci.
Ben voyons.
Dont un cheval très gourmand pour faire la scène du pop-corn.
Oui, d'accord.
Et également par un poney du Connemara, plus habitué à galoper le long des plages et en milieu maritime.
Alors justement, milieu maritime, tu le dis, ben on va aller aussi vers la mer Méditerranée et on va évoquer un cheval que tout le monde connaît, évidemment.
Eh oui, notre crin blanc.
National,
on peut ajouter, tourné par Albert Lamorisse en 1952 et écrit par Denis Colomb de Donnant. Donc on y retrouve les mêmes thèmes, celui de la confiance donnée au cheval, là où les enfants sont abandonnés et incompris par les adultes. La mer, donc, est présente dans le film, mais ici, nous sommes dans le delta du Rhône, en Camargue. Et c'est dans un endroit sauvage que Folco, l'enfant, va se lier d'amitié avec cet étalon blanc sauvage. Un étalon qui va défier les hommes et refuser la servitude à laquelle ils veulent le contraindre. Et l'on peut voir dans les deux films que les enfants acceptent les chevaux tels qu'ils sont, qu'ils n'essaient pas de les contraindre là où les hommes veulent les dominer. Le noir et blanc du film lui garde un charme indéniable qui continue à séduire de nouvelles générations chaque année. Ce film a été tourné dans le Mas de Cacharel avec les chevaux de Denis Coulon de Donnant, les acteurs du film étant de vrais gardiens et amis de cet homme de cheval qui a remis la Camargue à l'honneur.
Alors ce qui est formidable, c'est que toutes les mythologies disent que le cheval est né de la mer. Et là, on voit un cheval crin blanc qui retourne à la mer.
Et Tirnanog retourne à la mer également. Alors juste une petite anecdote, Michel, et j'ai eu la chance d'aller au Mas de Cacharel avec Jean-Yves Bonnet et au cours d'un déjeuner, j'étais assis à côté d'un monsieur charmant et j'ai appris beaucoup plus tard que c'était le petit garçon qui jouait Folco.
D'accord.
Voilà, donc j'ai pu déjeuner avec Folco.
Parce que moi, on m'avait offert Crin Blanc quand j'étais tout petit et évidemment, j'étais sûr que le gosse s'était noyé. Et là, tu me rassures, il ne s'est pas noyé.
Il ne s'est pas noyé. Alors, le cinéma s'est également intéressé au monde du sport, et notamment celui des courses, avec des films comme Pur Sang, La Légende de Seabiscuit, tourné en 2003, et Secrétariat en 2010. Nous avons là affaire à deux grands cracks américains. Il y a également Farlap, tourné en 1983, qui évoque la carrière du plus grand cheval de course australien. Ces films sont des portraits d'hommes et de chevaux extraordinaires, vraiment dans le sens hors norme. Et ils avaient besoin d'un entourage hors norme également pour réaliser les exploits pour lesquels ils sont devenus célèbres. Donc l'histoire de Seabiscuit s'articule autour d'un propriétaire, d'un entraîneur et d'un jockey qui se sont mis à l'écoute d'un cheval qui est devenu le symbole du peuple américain face à la gentry de la côte est.
Alors la gentry, ça veut dire c'est la petite noblesse en fait,
voilà,
on pourrait traduire, d'accord.
Car c'était eux qui élevaient les chevaux de course. Alors
d'accord.
Que nous sommes avec Seabiscuit, il s'agit d'un homme d'affaires, donc considéré comme un parvenu à cette époque. Donc un propriétaire qui fait confiance à un ancien cow-boy spécialiste des chevaux cabossés, un jockey borgne et un pur sang caractériel.
Eh ben, tout ça, c'est bien.
Dans une Amérique qui se relève de la Grande Dépression de 1929.
Voilà, le clou est enfoncé. Donc, est parfait.
Tout est parfait. Et cela nous donne un film magnifique sur la résilience et le sens du cheval.
Alors, peut-être tout le monde ne connaît pas le mot résilience. Et en fait, c'est le seuil de résistance physique ou morale à un choc.
Voilà. Car je vais pas vous en raconter l'histoire. Il faut la découvrir si vous ne la connaissez pas. Tous nos héros ont connu beaucoup de chocs. Donc les images de course sont très spectaculaires et contrastent avec celles plus paisibles du haras. Le film retrace avec succès l'exploit que l'histoire de ce pur sang hors norme a soulevé en un temps où pendant quelques minutes, celui-ci, le temps, était suspendu au galop des chevaux, que des millions d'auditeurs à côté de leur radio et des milliers de spectateurs sur l'hippodrome suivaient avec passion. Moins connu, Secrétariat met également en lumière cette relation à trois, mais c'est ici la propriétaire qui retient l'attention car Penny Chenery va tenter de s'imposer dans un univers extrêmement machiste. Nous sommes à la fin des années 60 et cette mère de famille va reprendre le haras de son père et tenter de le sauver en faisant confiance à un poulain qui n'a jamais couru. Secrétariat remportera la triple couronne, c'est-à-dire c'est une série de trois courses en 1973, battant son plus proche adversaire de 31 longueurs, ce qui est en course, c'est absolument
hallucinant. C'est incroyable, absolument incroyable.
Et donc nous sommes ici, au contraire du film précédent, en Virginie, sur des terres de haras renommées, l'univers est feutré à l'image des clubs et les paysages respirent la sérénité, donc un esprit très différent mais qui offre un autre bel exemple du monde des courses lorsque les acteurs sont de vrais passionnés.
Toujours dans cet univers des sports que tu viens de nous retracer, Virginie, on ne peut pas faire l'impasse sur un petit cheval noir qui appartenait à Pierre Durand.
Exactement, Japlou, qui nous a valu ce très beau film de Christian Duguay qui est sorti en 2013 et qui nous retrace l'histoire parallèle de Pierre Durand qui va devenir le cavalier de concours hippique qu'il est devenu. Et ce cheval qui avait un gabarit tout à fait inapproprié pour le monde du CSO.
À part Durand, personne n'en voulait.
Personne n'en voulait. Donc on voit également ce cheval avec son entourage, son éleveur, sa palefrenière qui joue un rôle important dans le film. Et le film se terminant avec cette extraordinaire performance qu'ont réalisé Japloux et Pierre Durand lors des Jeux Olympiques, qui leur valut la médaille d'or.
La médaille d'or. Et puis, il y a aussi une certaine Patricia Mosui, donc Sport de filles. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Alors, c'est un très beau film de 2014 avec Marina Hans, qui jouait la femme de Guillaume Canet précédemment dans Japloux, qui est sur le monde du dressage. Et là, on voit l'histoire, on suit l'histoire d'une jeune fille qui ne sort pas du sérail, du milieu qui vous amène au monde du dressage professionnel et qui veut absolument réussir dans cet univers et qui va convaincre par sa volonté, sa détermination, ses capacités et ses qualités, un grand entraîneur et cavalier de dressage, de la prendre sous son aile et de faire d'elle une future championne.
C'est sur ces deux derniers films que nous terminons l'émission d'aujourd'hui. Mais n'ayez crainte, nous récidiverons. Tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site CFM Radio à la rubrique Les Messagers du Cheval. Un grand merci à toi Virginie. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles. Et bien sûr, un grand bravo à tous les chevaux. Ciao, ciao.